I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamase, future mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Layal est tombée rapidement enceinte quand, avec son mari, ils ont décidé de devenir parents. Sa grossesse se passe bien et elle vit un premier accouchement en siège aussi improbable que rapide. S'ensuit un allaitement et une relation fusionnelle avec son fils pendant une année jusqu'au sevrage. Layal pensait vivre un second allaitement aussi parfait avec son deuxième fils, mais rien ne se passe comme prévu. Son bébé, né avec ce qui semble être une jaunisse, va devoir recevoir des soins et être suffisamment hydraté avec des biberons. C'est un échec pour Layal qui a du mal à lâcher prise sur cet allaitement qui n'aura jamais lieu. Elle met tout son cœur à l'ouvrage, jusqu'à s'épuiser, puis réalise que les maternités se suivent mais ne se ressemblent pas. Et finalement, c'est très bien comme ça. Bonne écoute!
Bonjour Layal!
Salut, comment ça va?
Très bien, et toi?
Ça va, ça fait plaisir.
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas.
Avec plaisir.
Alors toi, tu es la maman, tu es jeune maman en fait, ça fait pas si longtemps que tu as débarqué dans la maternité.
Non, quand même, parce que j'ai un grand garçon, donc ça fait, ça fait 3 ans et demi, ça n'est pas non plus très très longtemps, ils sont petits.
Ok, deux garçons. Ok, ils ont quel âge chacun?
Alors 3 ans et demi pour le grand et 7 mois pour le deuxième.
Alors on va revenir avant que tu deviennes mère. Toi, plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité? Est-ce que tu as toujours voulu devenir maman ou c'était pas un sujet qui t'intéressait particulièrement?
Si, j'avais toujours, comme on dit, la fibre maternelle, je sais pas si ça existe vraiment ça, mais j'avais toujours l'envie d'être maman, je savais que je serais maman. Et que ce serait quelque chose d'important dans ma vie, mais je voulais pas me précipiter non plus et tout. Mais j'ai toujours voulu être maman.
Quand tu dis que tu voulais pas te précipiter, du coup, c'était quoi? D'abord les études, voyager, profiter.
Ouais, c'est ça. D'abord faire son petit bout de chemin en tant que personne, quoi, on va dire. Faire aboutir ses projets, vivre pour soi d'abord. Ouais. Pas le faire trop tôt parce que c'est aussi ça change une vie, quoi. Faut le savoir, c'était plus comme ça, et c'était pas aussi aucune pression de me dire à tel âge il faudra que j'ai des enfants, ça vient, et si ça vient pas, ça viendra, quoi. Je me posais pas trop la question, quoi.
Oui, t'avais pas un plan
Non, pas du tout, jamais de plan, dans rien, de toute façon. je sais pas faire ça.
Et alors, à quel moment le sujet de la maternité est arrivé?
Comme je te dis, il n'y a jamais vraiment de plan. Et là, pour le coup, c'est pas genre... on l'a pas prévu. C'est-à-dire, on savait, avec du coup le papa de mes enfants, qu'on voudrait... ça pouvait arriver. On était... moi, je prenais plus la pilule, on va dire. Donc, on était préparés. Mais on ne s'est pas dit que ça arriverait aussi rapidement. Parce que ça arrivait assez vite, en fait.
Ouais.
Mais finalement, on s'est rendu compte que pourquoi pas. En fait, pourquoi ce serait pas le bon moment? Parce que, on était plutôt bien dans nos vies, même si on n'est jamais parfait, on était très heureux au final, donc on a eu notre premier enfant, c'était un grand chamboulement, je vais pas dire que c'était, c'est un grand chamboulement d'avoir un enfant.
Ouais.
Moi je trouve qu'on n'est pas préparé dans la société dans laquelle on vit, et on banalise beaucoup de choses, et on il y a beaucoup de choses dont on parle pas, enfin qui sont un peu voilà, par rapport surtout aux mères, au statut de la femme, etc. Et de tout ce qu'il y a à gérer en fait dans notre société, je trouve, hein, c'est vraiment personnel. Ouais. Et du coup, oui, ça je me le suis pris dans la gueule par contre.
Ouais.
Pour parler honnêtement, pour parler franchement. Et après, ça a été du temps pour retrouver un équilibre, voilà, un couple qui n'a pas forcément bien vécu, je pense. Voilà, mais ça, on y reviendra peut-être un peu après.
Ouais.
Dans la chronologie.
Exactement. Ouais. On va déjà parler de comment toi, t'as accueilli la nouvelle, le fait de découvrir que tu étais enceinte.
Bah, du coup, j'étais surprise parce que je m'y attendais pas quand même.
Ouais.
Mais dès que j'ai vu aussi la réaction du papa, bah, j'étais tout de suite heureuse parce que j'avais toujours eu envie de. Voilà, je savais que j'aurais. Enfin, je voulais être maman, quoi. C'était un truc que j'avais en moi. Et du coup, c'était la surprise, un peu le choc. J'étais dans le travail à fond. Voilà, un petit peu. Ok, mince, ça faisait presque 2 mois que j'étais enceinte. Je le savais pas.
D'accord.
C'est pour te dire.
Ouais, ouais. Petit déni.
Et du coup, ouais, petit déni, sûrement. Ouais, ouais. Oui, carrément même. Et en fait, après, du coup, je me suis dit, mais pendant 2 mois, j'ai pas fait ce qu'il faut, j'ai bu de l'alcool, j'ai machin, ben, bref, je pense qu'il y a même beaucoup le vivre, hein, beaucoup de mamans le vivent. Et au final, bah, ça s'est très bien passé, c'était un petit bébé et un garçon extraordinaire, voilà. Je peux pas dire autre chose.
Et la grossesse, comment elle s'est passée, cette première grossesse?
La grossesse, géniale. Alors, géniale, franchement, mais c'était pas du tout le cas pour la deuxième, donc c'est pour ça que je le précise. C'était comme si j'étais moi, mais avec un ventre, quoi. Enfin, voilà, ouais. C'était pas du, ça ne me paralysait en rien, ça ne m'embêtait en rien, c'était juste en pleine forme.
Ouais.
Ouais, c'était vraiment une super grossesse, la première, je précise, parce que la deuxième, c'était pas ça. Et au final, j'ai aussi l'accouchement, c'était, faut peut-être pas me lancer sur ce sujet parce qu'on va faire un podcast que sur l'accouchement. Parce qu'il a été très, très rapide, mais voire trop rapide. En fait, je suis arrivée trop tard à la maternité. Pour te dire, on est tombé en panne sur l'autoroute. Non, mais c'est vraiment une histoire de film. Si, si.
Ah bah raconte, c'est trop drôle.
Oh là là. c'est trop cette histoire. Je te dis, en plus, là, j'ai encore du mal à en parler parce que c'était un peu traumatisant.
Forcément. Ouais.
Mais tout s'est bien passé après, heureusement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bah, c'est un peu... Moi aussi, je suis un peu Miss Catastrophe, s'il faut le dire. J'anticipe pas beaucoup les choses, je viens un peu oh ça va aller, et du coup bah j'étais à 3 semaines de mon terme, ça veut dire que le bébé peut arriver à tout moment, hein.
Ouais.
Mais en fait, comme moi j'avais un siège, c'était un siège à la maternité, il m'avait prévu une césarienne, tu vois.
Ok.
Une semaine après, donc 5 jours après le moment où voilà où ça s'est passé, donc là à ce moment là donc c'est le jour où j'ai accouché. Je veux dire. Donc à ce moment-là, on se dit, bon, bah, avec le papa de mes enfants, on se dit, on va à la maison de campagne de sa famille qui était, à Paris à ce moment-là, qui était en banlieue, à peu près à 2 heures de route.
D'accord.
2 heures de route de l'hôpital. On dit, bah ouais, ok, pourquoi pas. De toute façon, puisque j'ai une césarienne dans une semaine, il me disait, le bébé, il va pas arriver tout seul en siège, quoi.
Ouais, voilà. T'étais confiante.
Et, ouais, j'étais confiante, franchement, vraiment, quoi. Et en plus, j'avais pas eu de contraction. Peut-être que j'en avais eu, mais que j'avais pas trop capté ce que c'était aussi. Parce que ça, en vrai, moi, c'était totalement ça. Mais en tout cas, voilà, je m'y attendais pas que ça arrive à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est en week-end, on est en train de déjeuner et tout. Et je commence à avoir des contractions. Mais je me dis, bon, de toute façon, même si c'est ça, j'étais pas sûre que c'était ça déjà. Et même si c'est ça. On m'a dit qu'il fallait attendre au moins le premier accouchement, t'as au moins 10 heures.
Ouais.
Avant de commencer le travail, je crois. Même pas d'être ouverte.
Ouais.
Donc, du coup, j'appelle l'hôpital quand même parce que je suis très rapidement, au bout peut-être de 2 heures, je suis très rapidement à 5 minutes entre chaque contraction, finalement. Et j'avais appelé déjà avant, il m'avait dit de prendre un bain. Et si jamais les contractions sont encore là, c'est que c'est des vraies contractions. Et là, je peux commencer à prendre la route, mais j'ai le time. Tu vois, j'ai même le time d'aller récupérer mon sac de maternité, tu vois. Absolument pas, c'est absolument pas ce qui arrivait, mais du coup ça m'a rassurée. On a pris la route, sauf que là je me dis, putain, j'ai quand même mal, quoi. C'était au mois de novembre, en plus il faisait un peu froid, j'ai quand même mal, là je commence à avoir très mal en fait, et je perds les os au moment où je sors de la maison. Je perds les os, là je fais, oh putain, là quand même
ouais.
ça me fait un peu paniquer, parce qu'après avoir perdu les os, les douleurs c'était x10 en fait.
Ouais.
Là, j'étais dans le mal. Là, je commençais à flipper. Donc, on prend la route. Sauf qu'on venait à ce moment-là aussi de changer de voiture. C'est une voiture qui a aucune... Tu sais, l'essence à la fin, genre, ça passe de une barre à... Enfin, de 2 barres à 0. Enfin, genre, vraiment, j'ai jamais vu une voiture comme ça.
OK.
Et du coup, on s'est dit, non, mais c'est bon, on a le temps. Enfin, de toute façon, on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas trop d'essence. Je dis, on a quand même le temps, on était à quelques kilomètres avant la première station. On s'est dit, bon, ça devrait le faire. Ben non, on tombe en panne.
Oh, ouais. Ah là 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 là.
Ouais, ben, c'est chaud. À un kilomètre pile de la station. Et là, donc, le papa de mes enfants, il dit, il fallait réagir vite, quoi, si tu veux. Donc, moi, j'étais plus, vas-y, on arrête les voitures, je m'en fous, quoi, je vais crever, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, lui, je sais pas, il a pris cette décision d'aller, à pied. Il s'est dit, je vais aller plus vite à pied, en fait, et c'est moins dangereux pour tout le monde. Donc, en fait, il m'a mise au-dessus de la barrière, tu sais, de l'autoroute, ouais. Là, pour être en sécurité. Sauf que donc, on est en plein hiver, je suis trempée, j'ai perdu mes os. J'ai un vieux legging, voilà, le seul truc qui m'allait encore. Enfin, tu sais, c'était pas des trucs qui étaient bien chauds et tout. Et là, et donc, je suis toute seule, et j'ai des contractions. À chaque fois que j'ai une contraction, j'ai l'eau qui coule et ça fait mal. Enfin bref, c'est un carnage. Hein. Franchement, on raconte les détails, mais c'était vraiment un carnage. Et là, je commence à paniquer. Chaque seconde, on dirait des heures, je me dis, je vais crever ici. Le papa de mes enfants, il n'a plus de batterie. Bref, la totale.
Ah là 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 là.
Non, mais la totale. Donc là, je rappelle sa famille, donc ma belle-sœur et tout, qui était restée à la maison. Je dis que ça ne va pas du tout. Du coup, elle envoie le frère du papa de mes enfants à venir vite. Donc, il est parti de la maison. Entre-temps... le papa de mes enfants, il revient. Oh là là, mon Dieu. Et en fait, à ce moment-là, je le vois. Hop, on repart directement. Mais l'essence, on repart directement. Et là, je me rappelle... Franchement, c'est presque... je me rappelle juste que c'était horrible que j'hurlais dans la voiture. J'hurlais dans la voiture parce que j'avais mal, quoi. Et que vraiment... Donc, à ce moment-là, on arrive à la maternité.
Donc, 2 heures plus tard.
Ouais. Il a dû mettre 1h30 parce qu'il a roulé un froid. Mais ouais, voilà, pendant largement atroce, quoi.
Vraiment, ouais.
Voilà, atroce. Mais je m'accrochais et tout. Donc on arrive à la maternité. Je n'arrive même plus à marcher à ce moment-là. Je suis par terre, quoi, pratiquement. Donc on m'aide à monter dans l'ascenseur, etc., etc. J'arrive devant, les sages-femmes et tout ça. Et ça fait longtemps que vous êtes dans cet état. Oui, je vous ai appelé. Vous savez, mon travail, il a commencé à 13h. Il devait être 19, même, un truc comme ça. Le temps que, voilà, qu'il se passe tout ça. Je sais que j'ai accouché à 20h et que c'était vraiment pas longtemps après, tu vois.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais,
parce que le bébé, il était là. Oui, et là, ça y est, elle commence à mettre les bas de contention. Je leur dis, non, mais là, en fait, j'ai pas le time. C'est pas possible, il est là, quoi. Et je commence à avoir envie de pousser. Donc là, comme en plus c'était un siège, ils m'ont mis au bloc opératoire. C'était pas genre la salle d'accouchement classique, j'étais au bloc opératoire. Donc tout est un peu long, tu vois, le temps d'y arriver, machin. Et là, on me dit qu'on va me poser la péri, sauf que je n'arrive pas à pas pousser à ce moment-là.
Je
vais y arriver, c'est pas possible. Ouais. Écoute, alors mon père était anesthésiste, hein, il est décédé, donc j'ai l'impression que c'est son ange qui est venu dans la pièce, tu sais, parce que du coup il y a une femme qui est venue, une anesthésiste, pareil, je l'ai à peine vue, hein, j'étais tellement elle est venue, elle m'a posé la péri, genre hyper vite, j'ai pas compris en fait comment elle a fait, sauf que du coup comme j'avais des contractions très fortes à ce moment-là, mais même pas toutes les minutes, il y avait la sage-femme qui me tenait,
ouais.
Pas que je bouge, mais elle me tenait, genre elle mettait toute sa vie à me tenir, cette femme, elle était incroyable. Et voilà, pour pas que je bouge, donc j'étais assise et elle me tenait comme ça. Voilà, vraiment, elle me portait. Et elle a réussi à mettre la péri. Et là, le soulagement total. Sauf que bah, du coup, au bout de... Ils ont dit, bon, on va attendre vraiment que... Voilà, que du coup, c'était un siège voilà, qui soit tout en bas. Et on a attendu peut-être une demi-heure. Et là, j'ai poussé 2 fois et le bébé est sorti.
Ah ouais.
Pour le coup, c'était hyper rapide, trop rapide, voilà, en fait. Et comme quoi, on peut accoucher en siège naturellement sans problème. Et...
Ouais, il n'y avait pas de question de césarienne au moment où justement ils te...
Ben non, parce qu'en fait, au départ, si. Mais quand ils ont vu que le travail, ça y est, il était fait,
ouais.
Le chirurgien, enfin le obstétricien, je ne sais pas, il m'a dit, en fait, on ne va pas faire... Si vous êtes d'accord, essayons comme ça. Mmh. Donc, je dis, moi, c'était mon souhait là-bas, bien
ouais.
Sûr. Donc, mais au moment où il me parlait, pareil, j'entendais plus rien. Je disais juste soulagez-moi. Je me rappelle, je criais des trucs, je criais mon Dieu, aidez-moi. Je me criais des trucs comme ça, on me l'a dit après. Hein, que j'étais dans le mal, c'était dur, mais ouais. Mais du coup, je l'ai eu, j'ai pu accoucher naturellement, donc c'est génial, quoi. Parce qu'après, l'allaitement s'est enclenché, ça a été un bel allaitement, mon premier.
Ouais.
Ouais.
T'as allaité combien de temps?
Presque un an, 8 mois exclusivement. Et après, c'est allé, je jouais en un petit peu les deux jusqu'à un an. Et après, j'avais pas mal repris le travail. Donc, c'était, ça a arrêté un peu comme ça. Mais 8 mois, je me suis consacrée à lui. Donc, c'était trop bien.
Ouais. Comment ça s'est passé, tes premiers pas dans la vie de maman? Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise?
Non, pas du tout.
Non?
Pas du tout. Alors, j'ai tout de suite, par contre, ressenti un amour incroyable pour mon bébé, mais même dur à gérer, en fait, dans le sens où j'avais peur de tout, parce que j'ai assez confiance en la vie et je sais que tout roule et que tout va bien. J'avais pas peur pour sa santé, pour tout ça, tout allait très bien, mais plutôt dans le sens où quelle responsabilité, en fait, et ça, je m'y attendais pas. Enfin, on se dit, mais en fait, on a tellement de responsabilités, tous les choix qu'on fait tous les jours, ça les impacte. C'est ça, quand je disais, je me suis pris dans la gueule. Je pense que je me sentais aussi beaucoup seule, parce que j'étais très seule avec lui. Hein.
Donc, ouais.
Et j'avais pas ma maman, parce qu'elle était dans le sud, donc j'étais à Paris à ce moment-là. Et avoir sa maman, je sais que tout le monde ne peut pas, hein, que c'est pas facile, mais ça change tout. Ça change tout d'avoir sa maman proche, ou un proche, peu importe, mais quelqu'un. Voilà, pour moi, ma maman, c'est un peu mon pilier dans ma vie, donc voilà. Donc je me sentais seule, clairement.
Ouais.
Clairement, c'était le Covid aussi. Hein.
Ah bah oui.
Donc le papa de mon fils, il bossait énormément. Donc voilà, c'était vraiment très très forte solitude. Et j'ai eu certainement la dépression, qui n'a pas été, je ne suis pas allée voir quelqu'un, etc. et tout. Mais oui, dans la société, il n'y a pas d'accompagnement. On fait attention quand tu es enceinte, on fait attention à l'accouchement et après, c'est... Voilà, fais ton truc, démerde-toi. Et très seule. Mais mon bébé, c'était magique, les moments avec lui. C'était vraiment incroyable de vivre tout ça. Mmh. Toutes les premières fois, c'était un bébé hyper joyeux, hyper dynamique, hyper. Il a tout fait en avance. C'était un petit spectacle tous les jours. Et l'allaitement, c'était un bonheur
pour moi,
de l'allaiter tous les jours. La nuit, moi j'étais vraiment, alors pour le coup, faut pas écouter ce que je dis parce que c'est tout ce que les médecins disent qu'il faut pas faire, c'est-à-dire que mon dormeur sonne dans le lit. Mon fils, alors faut savoir que je ne pouvais pas le poser. Depuis le moment où il est né, je n'ai pas pu le poser, mais jusqu'à un an.
Ah ouais?
J'exagère un peu, mais genre, on n'en est pas loin, quoi. C'était maman collée, en fait c'était physique, il fallait qu'il dormir sur moi, collée à moi. Donc j'ai eu du mal au début, ça a été très dur parce que j'arrivais pas à dormir. Moi j'arrive pas à dormir sur le dos.
Ouais.
Il n'y a que comme ça que je me trouvais un peu en sécurité. Je te jure que je ne pouvais pas le poser. C'est pas genre un truc de c'est parce que je le posais pas assez. Tu sais, quand on dit qu'on a habitué les enfants, quelle horreur ça. Voilà, enfin, c'est tout ce que je ne crois pas, mais je veux dire quand même. Là, c'était extrême, quoi. Enfin, il voulait être collé à moi, tout le temps. En plus, avec l'allaitement. Donc, au final, le seul moyen que j'ai trouvé pour me réveiller, pour pouvoir me reposer, et au final, c'était vraiment merveilleux pour moi. C'était quand j'ai réussi à trouver mon équilibre, je dormais super bien, j'étais pas fatiguée. En fait, ce que je faisais, c'est que je dormais avec lui dans le lit. Encore une fois, je sais que c'est pas, on va dire que c'est dangereux, c'est tout ce que tu veux, mais à un moment, c'est un peu l'instinct de survie, t'es obligé de dormir, quoi. Sinon, tu fais comment? Donc en fait, ce que je faisais, c'est que comme il avait besoin d'être vraiment collé à moi, c'était pas genre même à 20 cm dans le lit, il pleurait.
Ouais.
C'était ça. Franchement,
il voulait vraiment le poids.
Même moi, je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça avec Zayan, mon premier, quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me mettais sur le côté et je le mettais en face de moi. Et en fait, je dormais que sur le côté comme ça. Et dès que j'avais besoin de changer de position, je le tournais avec moi. Je dormais soit d'un côté, soit de l'autre. On a fait ça pendant toute la durée de l'allaitement. Et à chaque fois qu'il voulait téter, hop, j'avais le t-shirt où j'ouvre pour lui donner le sein. En fait, du coup, quand je lui donnais le sein, je me réveillais presque pas parce qu'il tétait presque toutes les 2h30. Hein. Et ça, c'était pendant tout l'allaitement. Il a vraiment laissé plus. Ouais. Peut-être à un moment aussi, il laissait plus. Et je le savais même plus, ça me réveillait même pas en fait. C'était tellement devenu un automatisme. Et c'est ce qui a fait, je pense aussi que ça a duré, c'est que du coup, je dormais bien. Quand je dormais avec lui, je sais qu'il y a aussi quelque chose qui joue sur les hormones quand t'as l'aide de ton bébé, donc t'as un sommeil plus profond, etc. Et du coup, lui, comme on faisait ça, il était calé sur mon rythme. C'est pas moi qui étais sur le rythme de mon bébé, c'est-à-dire on se fait réveiller par son bébé, c'est lui qui était calé à mon rythme. C'est-à-dire, il se couchait très tard et il se levait vers 9-10 heures. Quoi.
Ah ouais.
Ouais, et je pouvais pas le coucher avant. Genre, j'ai couché quand je me couchais, donc 22h, 23h, peu importe. Et des fois, il montrait quand il est fatigué, mais il fallait que je me couche avec lui.
Ouais,
c'était comme ça. Mais franchement, c'était génial. Et j'avais arrêté d'écouter tout ce que tout le monde dit, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est comme ça que j'ai eu un super beau, bel allaitement. La journée, ça ne veut pas dire qu'il était collé à moi, il faisait plein de trucs, il était très actif, on sortait. Je l'amenais partout.
Ouais.
C'était facile avec l'allaitement. Il aimait sortir, ce n'était pas le bébé casanier, tu vois, qui a besoin, comme on dit, ils ont besoin de leur rythme. Je te dis ça parce que mon deuxième, c'est l'opposé.
Ouais.
Et c'est pour ça que je suis surprise, parce que, en fait, j'ai l'impression que les enfants, ils naissent avec leur personnalité, en fait.
Complètement.
C'est vraiment un truc qui se passe et que tu gères pas, en fait. Et en tout cas, voilà, ça s'est passé comme ça avec le premier.
Et la fin de l'allaitement, ça n'a pas été trop dur pour toi?
Oh là là, si.
Ou pour lui,
en fait, c'est, c'est moi qui l'ai choisi.
Ouais.
C'est-à-dire que lui, je pense que là, il allaitera encore. C'est vraiment mon garçon, même à 3 ans, des fois, et je sais qu'il peut, il pourrait reprendre le sein. Il a un truc avec ça, il est encore voilà, capable de téter, mais comme ça, pour rigoler, tu vois, pour... c'était une belle histoire d'allaitement, quoi. Bah alors, du coup, moi, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir que je suis chanteuse professionnelle, en dehors de ce que je fais sur les réseaux sociaux aussi.
Ok.
C'est un peu ma deuxième activité, mais je suis chanteuse et du coup, je bosse beaucoup à l'étranger, je fais beaucoup de voyages. Et en fait, après le Covid, ça a repris à ce moment-là, donc quand il a eu environ 8 mois. Et moi, j'avais aussi l'envie de repartir, de retravailler un peu. Sauf que du coup, bien sûr, je ne vais pas me prendre des dates à tout va, mais à chaque fois que je pars, ça fait toujours 24 heures, 48 heures au minimum, tu vois, une fois, voilà. Donc, forcément, l'allaitement, c'est foutu, quoi, tu vois. Donc, j'ai essayé de lui donner des biberons. Alors, il n'y avait rien à faire, mais c'était... Mais... Franchement, il y a des fois où je ne donnais pas le sein pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Il était là sur son transat, il me regardait, il pleurait même pas. C'est, je vais pas le prendre ton biberon, je m'en fous. J'attendrai à, même si je suis au bord de mourir de me déshydrater, je le prendrai pas. C'était un sketch. Ce bébé, c'était un sketch. Et en fait, il y a un moment, j'ai craqué, je me dis, c'est pas possible. Bah, il le prenait pas, il y avait rien à faire. Je me baladais pendant une heure, deux heures. Il buvait rien. Il buvait rien pendant des heures. Non, mais. Un sketch, quoi. Sans rien dire, en mode, moi, je sais ce que je veux, je suis droite dans mes plombes, c'est toi qui m'as craqué. Au final, un jour, j'ai appelé ma sœur qui habitait à Strasbourg, j'ai dit, vas-y, je vais venir chez toi. Et genre, là, c'est bon, je vais lâcher l'affaire et il va se démerder avec son papa. Je veux dire, à un moment, il va pas se laisser mourir, quoi. Et en fait, c'est pour te dire le désespoir que j'avais pour en arriver là, parce que, voilà, j'aurais bien sûr voulu que ce soit différemment, mais voilà, là, vraiment... Il prenait pas un biberon, quoi. C'était pas possible, quoi. Et à un moment, je commençais aussi à fatiguer. Comme je te dis, j'étais assez seule aussi, pas forcément très accompagnée dans tout ça. Donc je pense que ça change tout aussi. Et peut-être que j'aurais continué si ça avait été aussi un peu différent. Mais du coup, je suis allée chez ma sœur et en fait, il a fini par prendre le biberon. Et quand je suis revenue, j'ai continué un peu en mixte. Voilà, c'est ça qui s'est passé. J'ai pas tiré une seule fois mon lait dans tout ça parce que j'ai jamais réussi. À ce moment-là, je n'y arrivais pas parce qu'il buvait tout, en fait, je pense.
Ouais.
Donc, c'était ça aussi. Pour parler un peu de ça, parce que je sais qu'il y en a plein qui pensent qu'elle n'est pas normale parce qu'ils n'arrivent pas à tirer, mais eux, ou de pas avoir de lait parce que t'arrives pas à tirer, mais pas du tout. Quand t'arrives pas à tirer, ça veut pas dire que t'as pas de lait. Parce que moi, j'avais tout ce qu'il faut, mais je n'ai jamais réussi à tirer près de.
Ouais, quelques gouttes.
Ouais, voilà. 10 ml, peut-être une fois 30 ml, mais voilà, le max.
Et alors, vous décidez d'avoir un deuxième bébé quelques années plus tard, pas très longtemps plus tard, finalement, 2 ans.
Alors, du coup, c'était plus... moi, je sais que je voulais en avoir deux. Enfin, on voulait en avoir deux. Et du coup, il s'est passé qu'on a déménagé ici, dans le sud, là où je suis maintenant. Et on a emménagé dans le sud. C'était un peu la continuité. Et du coup, je suis retombée enceinte... Voilà, il faut savoir aussi que dans mon couple, ça n'allait pas pas bien. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, on s'est séparés. Autant le dire maintenant, ça sert à rien. Donc, on s'est séparés pendant la grossesse. Mais moi, c'est vrai que après, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées suite à cette séparation. Je m'attendais bien sûr pas à me séparer, mais c'est un petit peu les moments dans la vie où t'es face à toi-même, il se passe tellement de choses négatives que si t'es pas capable de prendre de décision à un moment donné, soit tu tombes malade, soit j'allais tomber malade, soit j'allais devenir folle. Je me suis vue avoir des réactions complètement folles. Je m'observais moi-même, je disais mais qu'est-ce qui se passe en fait, stop. Et donc, bah, du coup, je me suis séparée. En ça, j'ai pris la décision de dire là, c'est stop, sinon je vais vraiment me faire du mal, faire du mal au bébé aussi. Voilà. Et du coup, voilà, il s'est passé ça. Donc, c'est assez, ouais, c'est assez triste, etc. Tout ce qu'on peut penser, même si aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre, hein, vraiment. Donc, il y a une fin, enfin, une fin. On va dire que c'est du positif aujourd'hui, mais ouais. Du coup, c'était une période extrêmement dure.
Mais là, tu étais proche de ta maman, du coup? Puisque vous aviez déménagé dans le sud.
Oui, par contre, c'était le bon côté, c'est que j'étais proche de ma maman,
ouais.
Qui a été là aussi pendant cette période difficile, du coup. Parce que c'est vrai que, du coup, bah, une grossesse, c'est censé être tout sauf ce que ça a été. Du coup, parce que c'est vrai qu'une grossesse, c'est censé être, on te chouchoute, on s'occupe de toi, on prend en compte le fait que t'es enceinte. Donc, voilà. Bah, moi, c'est pas ce qui s'est passé. Après, je blâme. Ici, j'ai vraiment envie de blâmer personne. Un couple, il y a deux personnes, il y a deux responsables. Donc, c'est vrai que, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas normal, naturel, même si bon, le mot normal je l'aime pas trop, mais c'est pas naturel d'être enceinte un peu solo, enfin, et d'être très triste et de pleurer toutes les nuits, enfin, tu vois, c'était quand même violent, quoi. Ce passage-là était très violent. Parce que c'est une séparation, sauf que c'est une séparation, mais quand t'es enceinte, bah, t'es pas toute seule, tu dégages de la cortisol, il y a un impact. Enfin, moi j'y crois, hein, je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas le cas, mais moi je pense que si. Donc voilà, grossesse cata.
Mais physiquement, c'était plus psychologiquement que c'était compliqué. Physiquement, ça allait. T'as pas eu de soucis comme la première?
En fait, à la base, non, j'ai pas eu de vrais soucis. Ça allait. Mais en fait, comme quand ça va aussi psychologiquement, tu sais, enfin, j'avais des douleurs. Enfin, ça se passait pas du tout comme le premier. Où je, voilà, je sentais pas que, voilà, j'allais très bien, j'étais active, j'avais pas de douleur. Là, j'avais tout le temps une douleur sur le bas, en fait. Comme un poids, en fait, sur le vagin, enfin, je sais pas comment dire, mais un poids, vraiment, quelque chose qui...
Ouais.
Qui est... Enfin, je pouvais pas marcher longtemps, j'étais pas en très, très... en pleine forme, puis je pense que je faisais pas trop attention à ce que je mange, parce que j'étais dans ma tristesse, quoi, tout simplement. Donc, j'arrivais pas trop à le vivre bien, quoi. J'en ai pas vraiment profité, même si bah, j'ai toujours tellement voulu ce bébé et tellement été, j'avais tellement hâte de l'avoir. Enfin, j'avais cet amour qui était déjà là. J'étais bien entourée aussi par mes amis, ma maman, etc., ma famille, ma sœur.
Ouais.
Voilà, même si on habite pas au même endroit, on est très proches. Et voilà, donc heureusement. Mais c'est vrai que... Ouais, beaucoup de tristesse, pleurer, voilà. Enfin, il y avait, voilà, c'était très très dur cette période.
Mmh.
Et j'étais pas au bout de mes peines. Je me suis dit, bah c'est bon, le bébé il va arriver. Du coup, bah comme on était séparés avec le papa de mes enfants, on s'était dit bah que je déménagerais. Je suis quand même restée dans la maison, évidemment. On a cohabité en fait dans la maison, si tu veux. Et en fait, on s'est dit que bah quand le bébé aura 6 mois, là, on pensera à la suite. Et en fait, sauf que bah du coup, je m'étais dit bah le bébé va arriver et puis tout va se tasser petit à petit. Et bah en fait, ça a été très 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 dur. L'accouchement s'est très bien passé, c'était magnifique,
ouais.
Très rapide et c'était magnifique, c'est super bien passé. Mais en fait, mon bébé, il a eu des complications à la naissance. On est resté 1 mois à l'hôpital.
Ah oui.
On pensait que son pronostic vital était engagé.
Ah oui.
Donc ouais, très très dur. Il avait une cholestase, ce qu'on appelle une cholestase, c'est en fait une jaunisse qui persiste, mais qui provient du foie, en fait, qui ne fonctionne pas bien et qui ne dégage pas les saletés, en fait, qui ne fait pas bien son travail, si tu veux. Donc, ça donne une jaunisse. Sauf qu'au départ, il avait une jaunisse, on m'a dit, bah, il a une jaunisse, comme beaucoup de bébés, ça arrive tout le temps, ouais. C'est la jaunisse classique, si tu veux, voilà. Et ça part au bout de 15 jours, 3 semaines, sauf que, bah, ça partait pas. Moi, j'étais enfermée à l'hôpital. Et en gros, bah, du coup, il y a deux histoires à raconter. L'histoire de cette maladie qui s'avère aujourd'hui... Bon, je ne vais pas trop rentrer dans cette histoire-là parce qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Mais il faut savoir qu'il a des bilans parfaits, mon bébé. Il va très bien. Et moi, je pense que voilà, qu'il va très bien. Mais c'est vrai que comme c'est quand même pas très banal, ce qui est bien, c'est que toutes les maladies graves qui peuvent y être associées ont été éliminées parce qu'on a fait les diagnostics et c'est pas ça.
Ouais.
Mais par contre, voilà, on ne sait toujours pas... trop ce que c'était, est-ce que c'était juste transitoire, on va dire un mauvais démarrage. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, qu'il a eu un mauvais démarrage dans la vie. Mais il reste suivi, mais aujourd'hui, il va très bien, il va parfaitement bien. Donc voilà, moi, c'est tout ce que je retiens pour l'instant. Et voilà. Pareil, j'essaie de lâcher prise, tu vois, sur le résultat. Ce que je retiens, c'est qu'il va très bien. Moi, ce qui a encore plus été dur, bon, bien sûr, ça a été dur de passer voir ce que mon bébé a, mais comme il évoluait toujours bien, qu'il mangeait toujours bien, qu'il grossissait toujours bien, si tu veux, moi, j'avais vraiment le ressenti que mon bébé allait bien. Par contre, ce qui a été triste, c'est que comme justement son état était mauvais à la naissance, on a vite voulu lui fourrer un biberon dans la bouche, comme j'aime bien dire, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors que, moi, je sais que je pense que c'est vrai pour toutes les mamans. En vrai, je pense que c'est vrai pour toutes les mamans. Peut-être que c'est pas bien de dire ça, mais c'est ce que je pense moi personnellement, c'est que je pense que toutes les mamans ont tout ce qu'il faut pour allaiter. En fait, c'est naturel, c'est quelque chose qu'on a. Et je pense que par rapport à nos circonstances, bien sûr, notre état mental, le support qu'on a, c'est là où les complications vraiment arrivent, je pense. Hein. C'est quelque chose que je pense, mais à la base, on est faite pour ça. Et aussi, la société d'aujourd'hui fait beaucoup qu'on doute sur nos capacités parce qu'on dit, on est tout de suite en train de t'aller te foutre un biberon de lait artificiel, très très rapidement, alors que des fois, les soucis, ils viennent d'autres choses. Ça peut être le frein de la langue qui est trop court. Il y a beaucoup de choses, je trouve que... Alors, peut-être dans certaines maternités, ils gèrent très bien. Je sais qu'il y en a. Et il y en a d'autres où pas du tout. C'est-à-dire que moi, ce que je comprenais pas, c'est qu'on me dit, mon bébé va pas bien, mais on va lui mettre un bibi de lait artificiel, alors que c'est peut-être le lait maternel qui va l'aider à aller mieux. Enfin,
ouais,
tu vois. Donc moi, c'est ça que... Le truc, c'est que j'étais aussi seule à l'hôpital parce que y avait le grand à gérer, il y avait... Donc moi, on me dit que mon bébé, il est peut-être malade. Donc là, c'était au bout de... En plus, c'était au bout de quelques jours. Donc on pensait... J'allais avoir ma montée de lait. Enfin, j'avais la montée de lait qui est arrivée. Donc c'est-à-dire, c'était au bout de 3 jours. Hein. Donc je sentais que ça allait arriver dans les heures qui suivent ou dans la nuit, si tu veux. Quand on est venu me dire qu'il faut qu'il prenne un bibi parce que il prend pas assez de poids. Il était pas, tu sais, il était encore normal dans le poids. C'est vrai que, tu sais, ils doivent pas perdre plus de 10%. Il était presque à 10%. Et ils me disent, il faut qu'on lui mette un bibi. Je pense que je suis tombée aussi sur une personne qui n'avait aucune patience, qui devait être vraiment, comme beaucoup dans le milieu hospitalier, malheureusement, pas loin du burn-out, qui était vraiment... qui n'avait pas le temps, en fait.
Ouais.
Elle n'avait pas le temps, elle n'a pas le temps de me parler, elle n'a pas le temps de... Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est le médecin qui le dit, c'est le pédiatre qui le dit. Donc là, on te dit ça, tu te dis quand même, attends, c'est des médecins, ce que je regrette aujourd'hui. Et en fait... ça me brisait le cœur. Déjà, je demande, mais on peut pas lui donner la seringue ou autrement. Enfin, je sais qu'il existe d'autres machins. À ce moment-là, je connaissais pas le dalle. Tu vois, je connaissais pas le dalle, l'existence du dalle. C'est ça que j'ai vraiment ce regret qu'elle m'ait pas parlé de ça parce que c'était son rôle pour le coup de me parler de tous les éléments. Mais voilà, comme je te dis, je pense que leur travail, il est aussi difficile et voilà. En tout cas, elle l'a pas fait. Elle m'a juste dit, non mais c'est bon, deux bibis, c'est pas ça qui va plus casser un allaitement. Hein. Donc, si vous avez la montée de lait qui arrive, comme vous pensez, ça va aller. Sa collègue qui vient me dire pareil, presque, elle... Alors, je veux vraiment blâmer personne ici encore, mais presque, elle se moquait de mon inquiétude. Oh là, il faut arrêter de regarder Instagram, c'est pas possible. C'est pas deux bibis qui vont casser un allaitement, on le fait tous les jours, vous croyez quoi? Moi, je me suis sentie presque ridicule, tu vois, d'avoir cette inquiétude. Je dis, oui, mais... J'ai quand même allaité pendant un an, je connais ce sujet, je suis passée par les difficultés que toute maman connaisse. J'ai vu une consultante en lactation, je pense que c'est très important de voir des consultantes en lactation, qui m'avait rassurée parce que mon premier bébé, il avait énormément de coliques, si tu veux. Et je croyais qu'il avait faim, moi, quand il pleurait à un moment. En fait, j'ai pas assez de lait parce qu'on voit pas ce qu'il boit, donc c'est compliqué. Et il pleurait tellement. En fait, elle m'avait rassurée, cette consultante en lactation, me disant, mais vous avez tout ce qu'il faut, il a des coliques, si c'est des pleurs de coliques, ça se voit très bien, elle m'a expliqué pourquoi, etc. Donc, je sais que j'ai une expérience et qu'on m'a dit que même quand je partais des fois un petit peu en voyage, j'ai pu préserver l'allaitement avec mon premier parce que j'ai pris une tétine à très léger débit. Enfin, je sais qu'on donne pas un bébé comme ça à un bébé qu'on va allaiter, quoi. Mais bon, bref, à un moment donné, on me dit que voilà, qu'il faut qu'il grossisse, il faut qu'il grossisse la jaunisse. Après, il va devoir faire, tu sais, la lumière bleue. En fait, c'est une espèce de cabine où on met les bébés qui ont la jaunisse.
Ok.
En fait, c'est une lumière bleue et on les laisse là-dedans 3 heures, tu vois.
Ah ouais.
Et ça les déshydrate. Mais ça, c'est quand tu parles d'une jaunisse classique. Hein. Mais moi, mon bébé, en fait, c'était pas du tout ça qu'il avait. Donc, il a fait, c'est ce qu'ils appellent des tunnels. Il a dû faire 3 sessions de 9 heures de tunnels. Ouais, horrible. Horrible, et en fait, pour rien en plus, parce que c'était pas ça le problème, il avait pas une jaunisse classique, tu vois. Donc, du coup, on m'a dit que ça allait le déshydrater, donc faut absolument qu'il boive ce bibi, quoi, en gros. Donc, on lui donne ce bibi. Écoute, à partir du moment où il a eu ce bibi, il a commencé à galérer à aller au sein, c'est-à-dire, il y allait, mais alors qu'il tétait beaucoup avant, on voyait qu'il
Il était moins motivé.
Bien, ouais, qu'il était motivé, que le lait allait arriver. Que... Mais c'est vrai qu'il était vraiment, vraiment collé au sein. Mais mon premier, ça avait été pareil, tu vois.
Donc, ouais.
Voilà, mais pareil, c'est, oui, il est trop collé au sein, il est affamé, bref. Ça, c'était allé... Ben voilà, du coup, bon. En tout cas, après ça, il a galéré de plus en plus à téter. Et du coup, comme à chaque fois, il finissait par avoir le bibi, chaque fois qu'il avait faim, ben, c'était tout, la proportion tété et bibi, elle commençait à, tu vois, à baisser pour la tété et augmenter pour le bibi. Sauf que du coup, il n'allait pas mieux. Donc moi, j'arrivais pas à me dire, non mais là, arrêtez. J'avais envie, hein, tout en moi disait, ben, on arrête le bibi.
Ouais.
Sauf que, bah, il allait dans les tunnels aussi. Et dans les tunnels, moi, je tirais. J'avais énormément de lait. Je tirais. Je pouvais donner à tous les tâches. Enfin, mais c'était très dur parce que je détestais tirer. C'était un brisqueur pour moi. Parce que je voyais que...
Je suis désolée, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, en fait.
Non, t'inquiète.
En fait, je voyais que plus ça allait, plus il allait plus prendre le sein, quoi, tu vois. Mais en même temps, il allait dans ce tunnel, donc comme il restait très longtemps, moi, je me reposais très peu, donc elles avaient gardé des bibis de lait maternel, donc même quand il y avait une petite amélioration qui se remettait au sein, paf, on lui remettait un bibi dans les tunnels. Mmh. Et j'ai senti quand il y a eu le bibi de trop. C'est vraiment là, je l'ai senti, j'ai dit là. Pourtant, j'avais demandé qu'on m'appelle, qu'on me réveille, que je monte pour que je lui donne le sein et tout, mais voilà, comme on dit, hein, elles font ce qu'elles peuvent. Hein. Elles font ce qu'elles peuvent et tout, donc...
Quel âge il a ton bébé à ce moment-là?
Là, il a 15 jours.
15 jours, donc ça fait 15 jours que toi, ouais, aussi tu dors à la maternité?
Ah oui.
Ouais, ok.
T'es très long. Ouais, ouais. Donc, bah, je suis restée plus presque un mois à l'hôpital.
Sur place.
Après, c'est pas fini, hein. Je suis partie. Non, bah, après, j'étais envoyée à Marseille. En fait, j'étais à l'hôpital de Grasse. On m'a envoyée à Marseille parce qu'on pensait que son pronostic vital était engagé, en fait. Et à Grasse, dans les petites maternités, si tu veux, ils ont pas. Ça les dépasse, tu vois. Là, quand il y a besoin de vraiment faire des contrôles sur le foie, voir ce qu'il peut y avoir comme problème. Donc là, on m'a envoyée ensuite à Marseille. Et tout ce temps-là, je demandais à avoir une consultante en lactation. Elle est passée une fois, elle a va vite me voir. Et en fait, elle a... C'est-à-dire que, tu sais, normalement, on dit qu'il ne faut pas toucher le bébé. Sauf qu'on faisait que le toucher, en fait. On faisait que toute la journée, parce qu'ils savaient, donc l'équipe, voilà, que je voulais allaiter toute la journée. On me forçait à le mettre au sein, en fait. Enfin, on forçait sa tête à aller sur mon sein, si tu veux, mais c'est tout sauf ça qu'il faut faire quand tu veux. Sauf que, ben, ils faisaient ce qu'ils peuvent, hein. Franchement, ils se sont battus avec moi, hein. Ça, par contre, vraiment, ils se sont battus avec moi. Mais c'était, en fait, je faisais que me battre toute la journée, je me battais avec mon bébé pour qu'il prenne le sein. Les repas, ça pouvait durer une heure où on essayait, quoi, toutes les trois heures. Imagine, mon épuisement. Mmh. L'épuisement du bébé aussi. Et à un moment, en fait, j'ai dit, moi, je veux juste, maintenant, stop, je veux qu'il aille mieux. Donc, j'ai arrêté à un moment de m'acharner aussi, comme on dit, tu sais, de lâcher prise, tu vois, c'est un moment... Le but, c'est juste qu'il soit en bonne santé, en fait, qu'il soit... Voilà. Donc, j'ai commencé à me préparer psychologiquement que je ne la laisserai pas, tu vois, à partir de là. Et après, il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais tu vas voir, quand tu vas rentrer à la maison, vous allez retrouver votre sérénité, et il se peut que le bébé, bah, petit à petit, il se remette au sein. Ce qu'il faut, c'est juste que tu continues à tirer. Donc moi, j'arrêtais maintenant de le mettre au sein, en vain, ça ne servait à rien. Essayer des heures pendant des jours et des jours et des jours. En fait, je me suis dit, bah, quand on rentre... Moi, non, ce qu'il faut, c'est que je tire. Je tire toutes les trois heures, je ne lâche pas. Sauf que quand tu es à l'hôpital, tu tires toutes les trois heures. Déjà, tu ne dors pas parce que tu es à une équipe de nuit, une équipe de jour. Ils viennent vérifier que le bébé va bien toutes les heures, pratiquement. Il est branché à des machines... qui bip toutes les 5 minutes. Donc moi, franchement, mais à un moment, j'ai craqué, en fait. Je me suis dit, j'ai besoin de me reposer. Enfin, c'était très dur de tenir, mais j'ai rien lâché. Après, moi aussi, je suis une battante. Enfin, vraiment, quand je décide un truc, je suis même trop. Hein. C'est trop, c'est trop. C'est trop parce que là, vraiment, ça atteint des trucs où tu te dis, mais ma famille me le disait, arrête, en fait, c'est pas grave. Donne-lui, tu vois, c'est pas grave, ça va aller. Mais je n'arrivais pas, donc je tirais tout le temps, voilà. Et je pense que mon corps, à un moment, même si j'avais beaucoup de lait et que je faisais confiance à mon corps, je disais, mais il n'y a pas de raison. En fait, il a juste dit, j'arrive plus, tu vois, je n'arrive plus. Donc en fait, j'étais encore à l'hôpital, on commençait à avoir un peu des meilleures nouvelles, dans le sens où il y avait deux choses qui pouvaient faire qu'il pouvait avoir de graves problèmes même peut-être pas survivre, donc il fallait qu'il ait peut-être une transplantation du foie. Donc ça, on nous annonce que c'est pas ça. On nous annonce que c'est pas l'autre truc non plus. Bref, on commence à se dire, peut-être que finalement, c'est transitoire. c'était juste un mauvais démarrage, mais pareil, on ne sait toujours pas. Et en fait, sauf qu'à un moment, comme on voit que ça s'améliore, on dit de rentrer à la maison parce que... et en fait, on revient tous les mois, tu vois, à ce moment-là, c'est ça qui s'est passé. Donc là, on rentre à la maison, j'étais tellement heureuse de rentrer à la maison. Je me rappelle, c'était mon rêve sur Terre. C'était tellement dur à l'hôpital. Tu dors mal, enfin, forcément, il n'y a pas de bonnes conditions. Et je me dis, les parents qui ont des bébés, des enfants qui ont de vrais problèmes, j'ai envie de dire, parce que moi, finalement, on n'a eu que des bonnes nouvelles depuis. Donc, je me considère extrêmement chanceuse. Mon fils, il n'a pas eu une transplantation du foie, il n'a pas été opéré à cœur ouvert. Enfin, j'en ai vu.
Ouais.
Et dans ces conditions-là, rester avec ton bébé, mais c'est trop dur, quoi. Enfin, tu te reposes pas, tu. Et t'es son pilier, quoi. T'es là, t'es son pilier, quoi, ton bébé. Enfin, donc, en fait, on est rentré à la maison. Donc, déjà, ça a été un gros soulagement. Et je me suis dit, voilà, j'ai fait venir une consultante en lactation qui a été merveilleuse aussi. Mais on n'a pas réussi, si tu veux. Donc, on a tout fait. J'ai même fait couper le frein de la langue parce que ça aussi, il avait ce problème-là aussi. Ça, c'est ce que je regrette aussi, qu'on m'ait pas laissé faire venir aussi des spécialistes à la maternité parce qu'en fait, ils ne peuvent pas faire ça quand, tant qu'on ne sait pas ce que le bébé a, si tu veux. Ah, on peut pas faire venir des gens. Donc, voilà. On a fait ça, mais en fait, je pense que c'était trop tard, tu vois. C'était, voilà, il était habitué au bibi, puis à la mater, j'ai pas donné un bibi avec une tétine à faible débit. Parce qu'en fait, à la mater, ils m'ont soi-disant donné un. Mais c'était pas vrai. En fait, je pense que ce qu'ils ont, c'est des trucs, tu vois, ils ont des tétines un peu plus petites que d'autres, mais elles restent très fortes en débit comparées à ce qui se trouve sur le marché pour quand tu veux allaiter ton bébé et donner un bibi qui ressemble vraiment au débit du sein. Mais comme, tu vois, j'étais aussi... concentrée sur tout ce qui se passe, sur le fait qu'il a mieux, c'est un détail que j'ai négligé. Et on m'a tellement minimisé ça, mais peu importe le débit, un bébé, si on se rend ça, il va retéter. C'était vraiment ça toute la journée à l'hôpital. Donc, on rentre à l'hôpital. Bref, ça ne marche pas. Et en plus, donc là, c'est le deuxième risqueur pour moi, tous les jours, j'ai une tétée en moins, pratiquement. Un tirage en moins, tu vois, quand tu tires avec le tir... le tirer. Tous les jours, pratiquement, je perds une tirée. Enfin, bref, c'est vraiment ce truc-là, je l'ai mal vécu au plus haut point. C'était vraiment... J'étais au fond du trou à chaque fois qu'il y en avait une en moins, tu vois. Et sauf que là, je me dis, vas-y, en fait, là, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Tout le monde me disait ça, mes proches, mais vraiment mes proches, ils me disaient... tout essayé, en fait, tu ne peux rien te reprocher, tu as tout fait. Maintenant, stop, repose-toi, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pendant une semaine, j'ai lâché le tir allaitement. Voilà, j'ai donné du lait artificiel à mon bébé. Ça a été très dur de trouver le bon. Voilà, c'était très compliqué. Comme il avait aussi du mal à digérer, il avait les séquelles aussi de tout ça. Il vomissait tout le temps. Enfin bref, c'était très dur. Mais il vomissait aussi avec mon lait, ça, faut le savoir. Donc, ça m'enlevait aussi un peu de bon. Et au final, un jour... je trouve le bon lait, après avoir essayé plusieurs, donc un lait qui digère mieux, un peu spécifique finalement aux bébés qui ont des allergies au lait de vache.
D'accord.
Aux protéines de lait de vache. Donc c'est vraiment un lait des plus digestes du marché, qui coûte cher et tout, mais voilà. En tout cas, c'est sur le lait jusqu'à aujourd'hui, ça se passe très bien. Et sauf qu'au bout d'une semaine, la meuf qui ne veut vraiment rien lâcher, je te disais, des fois j'ai du mal, en fait, je rappelle la consultante en lactation et je lui dis, j'aimerais relancer une lactation. Je crois que ce n'était pas au bout d'une semaine, peut-être plus au bout de 2-3 semaines quand même.
Ok.
Au bout de 2-3 semaines. Mais j'avais toujours ce regret en fait en moi et je n'arrivais pas à faire le deuil justement. Et en fait, j'ai tenté. Donc, il fallait que je me remette à tirer toutes les 2 heures cette fois. Imagine, parce que c'est comme ça quand tu relances. Elle m'a fait acheter plein de compléments alimentaires, le fenugrec, le machin, le truc. En fait, je suis rentrée dans un truc où je tirais rien, en fait. Et en fait, je savais qu'il fallait que je fasse ça au moins pendant un mois pour avoir des résultats. Et même là, ça peut ne pas marcher. Et en fait, j'ai dû faire ça pendant une semaine. En plus, mais j'ai dit, vas-y. Stop, en fait.
Ouais.
C'est comme ça, faut que je l'accepte. Faut que j'accepte mon histoire, notre histoire. Faut que j'accepte que ça s'est pas passé comme je l'ai rêvé, comme je l'ai voulu. Je voulais revivre ce que j'ai vécu avec mon premier garçon. Enfin, dans ma tête, c'était ça. Comme ça. Sauf que la vie, c'est pas ça, la vie. C'est pas ça, tu vois. Elle te fait comprendre que vraiment j'en ai tiré des leçons hein, aujourd'hui et je me dis c'est parfait comme c'est aussi tu vois et Léo mon deuxième bébé c'est pas un bébé, c'est toujours un bébé qui a été indépendant si tu veux si le mot est juste mais mon premier voilà c'était coller à maman le côté très peau à peau j'ai besoin d'aide en sécurité comme ça quoi. Bah lui il est très bien voilà il faut qu'il s'endorme tout seul dans les bras, il veut pas être dans les bras.
Ouais.
Donc, le mettre dans son lit pour qu'il dort. Voilà, apparemment, pour le coup, c'est l'opposé. Il n'est pas du tout dans l'hyperactivité. Il prend son temps pour avancer, pour acquérir les petites étapes. Il prend son time. Il est bien, en fait. Il est bien. C'est un bébé facile. C'est un bébé, le bébé bonheur, comme on dit, tu vois, qui sourit tout le temps. Mais presque au point où, après, quand on commençait à s'inquiéter toutes les 5 minutes dès qu'il avait un truc, parce qu'on. Il a eu un démarrage compliqué. Oui. Même on s'est dit, mais il rit trop, en fait, tu vois. Genre, c'est pas normal. Il est jamais pas content, en fait. On essayait de lui faire un peu mal ou de voir s'il réagit, tu vois, négativement. Il réagit négativement. Faut pas s'inquiéter. Hein. Quand ça va pas, il le fait savoir, tu vois. Mais au point où, tu vois, pour te dire, quoi, c'était tellement facile. Mon premier, c'était tellement dur. Il fallait que je pouvais pas me doucher. Je pouvais pas manger avec mon premier. Mais vraiment, j'ai vécu. Je ne peux pas. Il y a plein de parents qui le vivent, mais genre. C'était ça, et je pense pas que ça pouvait être à ce point-là, mais pendant des mois, je pouvais pas, j'avais pas 5 minutes, quoi.
Oui.
Et avec Elio, bah.
C'est smooth.
Ouais, voilà. Et bah, c'est un bébé qui prend le biberon et qui va très bien, quoi, aujourd'hui.
Ouais. Toi, t'as quel regard maintenant sur ça? T'as réussi à t'apaiser face à.
Oui, beaucoup, beaucoup. Mm. Bien sûr, des fois, j'y pense et je me dis, ce serait tellement bien parce que c'est une relation qui est unique, c'est un truc unique, l'allaitement. Moi, j'ai adoré allaiter, c'est quelque chose que. Je sais qu'il y a des moments, c'est pas leur délire, c'est pas leur truc, hein.
Ouais.
Et il faut respecter ça aussi, mais c'est une connexion que t'as pas autrement. Enfin, c'est quelque chose. Moi, je trouve que c'est divin, c'est. Ouais. Mais ça, franchement, pourtant, j'ai vraiment fait un pas dans l'acceptation, mais c'est vrai que. Ouais, c'est quelque chose que. En plus, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas parlé pour le coup, donc ça fait remonter des choses.
Mais oui.
Mais franchement, il va très bien et il le vit bien en fait. C'est ça aussi, j'ai l'impression que c'est lui depuis le début qui a dit moi j'ai choisi ça parce que c'est ça qu'il me fallait à ce moment-là.
Ouais.
Parce que peut-être, voilà, effectivement, il était c'est ça qu'il lui fallait, qui était mieux pour lui à ce moment-là. Enfin, je pense vraiment, quoi, que voilà, après on peut toujours dire et si j'avais pas fait ci, et si j'avais pas fait ça, bah peut-être qu'on serait arrivé quand même au même résultat, tu vois. C'est pas, c'est peut-être pas ce bibi qui a fait que, peut-être que lui aussi, il avait du mal aussi à téter. C'est vrai qu'il tétait peut-être pas assez efficacement à cause du frein de la langue. Je sais pas, il y a eu tellement de choses aujourd'hui que je me pose même plus la question. Et je me dis, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Et qu'à un moment donné, c'est moi qui me suis tellement programmée à aller à ce bébé, tu vois, parce que j'avais aimé ça, tu vois. Mm-hmm. Bah que en fait c'est moi qui ai dû faire un travail sur moi et on dit toujours que c'est que les enfants c'est eux qui t'apprennent, c'est eux qui t'éduquent si tu veux, c'est pas l'inverse, c'est eux qui t'élèvent, ouais, qui te donnent les leçons dont t'as besoin pour faire ton évolution dans la vie, ton évolution spirituelle ou personnelle, peu importe. Et Yo, mais mon Dieu qui m'a fait travailler,
ouais.
Mon Dieu qui m'a fait évoluer, ouais, ça vraiment. Et voilà, je pensais pas être séparée avec un bébé de 6 mois, enfin, c'est et même pendant la grossesse même, hein, tu vois, tout ça, mais je sais que je suis à ma place, vraiment.
Ouais, comment ça se passe tous les trois, votre petite vie maintenant?
Bah écoute, là je suis en train de déménager, donc on n'y est pas encore.
D'accord.
Mais j'ai vraiment hâte et je pense que ça va être bien et vraiment voilà, ça va apaiser aussi tout le monde et tout. Ouais, j'ai vraiment hâte, en fait.
Ouais.
J'ai vraiment hâte. Même si je sais que ça va pas être facile, ils sont petits. C'est vraiment. Voilà, c'est pas facile, mais je pense que quand nous, on est bien, en tant que parents, ça change tout. Mmh. Ça change tout, quoi. Et on croit que parce qu'on ne dit pas. Mais les enfants, ils ressentent tout, ils ressentent les énergies. Et en fait, on se doit d'être courageux pour eux, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment cette vision, c'est qu'il ne faut pas rester quand ça va pas, en fait. Mon Dieu, mais quel cata, en fait. Quel cata, on fait. C'est ce que j'ai vécu aussi avec mes parents, moi, qui ont fini par divorcer, mais ils sont restés ensemble longtemps alors que ça n'allait pas du tout.
Ouais.
Et je pense qu'il y a des traumas qui ont suivi, c'est sûr. Et donc, même si bah, ça va être compliqué, je vais peut-être pas être tout le temps avec eux. Enfin, moi, j'ai aussi cette culpabilité de me dire que, bah oui, c'est culpabilisant de se dire que je fais ce choix de finalement, c'est un choix par
par dépit.
Voilà, c'est ça, c'est un choix. C'est pas un choix direct, quoi. Ça, c'est des retombées, mais de faire qu'en fait, je serai pas avec mes enfants la moitié du temps, quoi. Donc ça, c'est un peu dur aussi. Il y a des jugements, il y a tout ce que tu veux, hein, forcément.
Ouais.
Avec. Mais je sais que si je suis à ma place et que c'était la décision à prendre, ça c'est sûr et certain.
Bah écoute, on parlera de l'après dans le podcast Hello Solos qui est dédié.
Avec plaisir, carrément.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi la maternité?
Oh là là, mon Dieu. Je pense que ça change tout, ça change tout. C'est un peu cliché de dire ça, mais ça change tout dans le sens où déjà on n'est plus tout seul. Et moi, personnellement, ça m'a fait vouloir aller droit au but dans mon purpose, dans mon life purpose. Tu veux, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres aussi en tant qu'une personne qui a aussi une communauté, tu vois?
Ouais.
Et d'être là à parler, enfin, des fois de choses futiles, alors c'est une façon de le dire, tu vois, mais de choses. En fait, ouais, d'avoir peur des fois d'être soi-même aussi, du jugement. Parce que forcément, on s'expose, tout le monde va voir notre sale tête au réveil ou des trucs comme ça, ou des choses dures qu'on peut vivre, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu m'as trouvée par rapport à mon poste sur l'allaitement. En fait,
ouais.
Entre la maternité, quand j'étais au bout du rouleau et en train de pleurer, en train de réaliser que j'allaiterais pas mon bébé, quoi. Et de dire que, voilà, que les échecs, je sais plus ce que je disais même sur la vidéo, mais que. Enfin, c'est ça que j'ai envie aujourd'hui aussi de partager, en fait, c'est qu'on a tous des épreuves et il faut grandir aussi. Et ça ne te définit pas, ça ne fait pas de toi une mauvaise mère, une mauvaise personne, un loser ou quoi que ce soit. Et que, en tout cas, ouais, ce que ça a changé pour moi, c'est que j'ai envie d'être. Tu vois, de moins perdre de temps dans. Ok, c'est énorme, me trouver, savoir ce que j'ai envie de faire, comment. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et pas. Tu vois, ça te fait aller vers là où tu veux aller plus rapidement, j'ai envie de dire. Tu vois. Bizarrement, alors qu'en même temps, t'as moins de temps. Mais justement, quand t'as moins de temps, ton temps, tu l'utilises plus mieux, j'ai l'impression. Moi, j'avais un objectif, j'avais envie aussi de créer une communauté sur les réseaux sociaux. J'ai fait une formation. Enfin, j'ai commencé sur TikTok, j'ai fait une formation TikTok parce que je suis maman, il n'y a pas le time, tu vois, de faire des vidéos toute la journée. Tu vois, mais tu vois, c'est un peu ça. Et c'est un peu après. Ouais, d'aller un peu plus au but, bon, je pense. C'est vraiment le côté positif, moi, que ça a eu dans ma vie, je pense, d'être maman.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ouais, carrément.
C'est quoi pour toi être une maman grassoise?
C'est génial de pouvoir avoir la montagne, la mer, le cadre, en fait. J'ai envie de dire le cadre de vie. Le soleil, les températures douces, avoir de l'espace, parce que forcément, à Paris, c'est pas comme ça. Et pouvoir offrir un beau cadre de vie à ses enfants. Ouais, comme je disais, je ne bougerai plus là, je pense.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Grasse?
La plage, ouais, la plage. Et on va beaucoup à des parcs aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de parcs. Donc, il y a un parc, je sais qu'on y va tout le temps. En fils, il adore à Pégoma, tu vois. Après, en l'été, un peu moins, parce que l'été, c'est la plage, comme tu as dit. Des parcs, des aires de jeu où il y a des fontaines, des trucs comme ça, on aime bien.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille?
Alors, rien que pour moi. Alors, du coup, je suis entrepreneur à côté, donc c'est un projet. Je ne veux pas en dire plus, que je vais faire le reveal aussi sur mes réseaux sociaux très bientôt. Donc, c'est vraiment un projet, j'ai mis tout mon cœur dedans. C'est depuis janvier 2022 que ça a commencé. Et franchement, j'ai tellement hâte. Là, ça y est, j'en ai marre, en fait, parce que du coup, c'est long, etc. Et j'ai tellement hâte ouais, c'est vraiment mon troisième bébé, comme j'aime bien dire. Donc, il y a ça. Et en dehors de ça, c'est de trouver mon équilibre avec mes enfants en tant que maman solo, du coup. Je pense à plein de choses. Voilà, trouver peut-être les prochaines vacances qu'on va pouvoir faire ensemble. Enfin, maintenant, voilà, je suis maman solo, donc tout est à moi, tu vois, de faire. Donc, j'ai hâte de trouver mon équilibre. Trouver notre petit équilibre.
Merci beaucoup, Layal.
Merci à toi, c'était cool pour revenir sur tout ça. C'était intense.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.